Christiane Hervault et Jean-Paul Sauzède vous présentent
Dans la famille, il y a la mère et le père, ou deux pères, ou deux mères, ou 36 belles-mères, toutes les sœurs et les frères, un cousin boxeur, papy et grand-mère, tous nos êtres chers dans la famille.
Ah, la famille. Que bazar!
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous rejoindre pour cette émission numéro 7, mine de rien on avance hein, sur la famille, la famille Kébazar, comme il a été annoncé, et je suis toujours avec Jean-Paul Sauzède, bien sûr comme nous l'avons nommé aussi, qui est thérapeute, et notamment thérapeute de couple. Et voilà, bonjour Jean-Paul.
Bonjour Christiane.
Voilà Jean-Paul, alors nous poursuivons notre émission au sujet du couple. La dernière fois, c'est-à-dire le mois dernier, nous avons parlé essentiellement de la rencontre, donc un peu de la formation du couple au tout début, la décision de vivre en couple, s'il y a une décision vraiment très, très nette qui est établie. Quelquefois pas, hein. Ça se fait comme ça, dans l'envolée des cœurs. Ça ne marche pas toujours comme il faut quand c'est comme ça, mais quelquefois oui. Et puis nous avons évoqué les tout donc, tout début du couple. Alors aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet. Il y a beaucoup à dire et tellement que je pense que nous n'arriverons pas à tout faire en une seule émission et que sur le couple, il y en aura deux. Voilà, vous êtes déjà avertis. Alors tout d'abord, eh ben, peut-être on peut commencer par une définition, Jean-Paul Sauzède, définition d'un couple. Pour vous, thérapeute, qu'est-ce que c'est ?
Ben, c'est intéressant comme question parce que quand on forme des thérapeutes, on leur demande souvent, de votre point de vue, qu'est-ce qui fait qu'un couple est un couple ? Et d'ailleurs, vous, les auditeurs et auditrices, vous pouvez vous interroger de qu'est-ce qui fait qu'un couple est un couple ? Que faut-il comme ingrédient pour qu'un couple existe ? Et c'est une question auquel les réponses sont extrêmement diverses, peut-être aussi diverses que sont les couples. Faut-il que pour qu'un couple existe, il y ait de la sexualité ? Peut-être, certainement, mais pas tout le monde, parce qu'il y a des couples qui se prévalent d'être asexuels. Faut-il pour être un couple vivre sous le même toit ? Pas nécessairement, parce que beaucoup de couples se retrouvent. Bien sûr, il y a nécessité d'avoir une vie commune et une vie quotidienne, mais beaucoup de couples sont éloignés pour des raisons professionnelles ou parfois parce qu'ils sont en famille recomposée, vont vivre chacun dans leur domicile avec leurs propres enfants et se retrouveront très ponctuellement, peut-être plusieurs fois par semaine, mais de façon très ponctuelle. Donc le critère de vivre sous le même toit n'est pas nécessairement déterminant. Il faut s'aimer, oui certainement, mais ça veut dire quoi s'aimer ? Avoir de l'attachement, oui, mais je peux avoir de l'attachement avec beaucoup de personnes sans nécessairement être en couple pour autant avec elles. Est-ce qu'il faut partager des mêmes valeurs ? Pas nécessairement, parce qu'au contraire, ça peut être intéressant dans un couple, et certains le couple le vivent, d'avoir des valeurs différentes, d'avoir des histoires, des référentiels culturels différents. Faut-il avoir le même âge ? Ben, on voit bien, monsieur et madame Macron, par exemple, sont des exemples intéressants. Il y a des couples qui existent qui ont parfois 20 et parfois même 30 ans de différence d'âge. Ce n'est pas facile, ça crée plein de difficultés par ailleurs, au fil de la vie, bien sûr. Mais ce n'est pas un critère suffisant d'avoir le même âge. Voilà. Donc, c'est très, extrêmement compliqué. Moi, j'aime bien à dire que pour qu'un couple existe, ben, il faut d'abord qu'il y ait de l'attachement. Sous quelle forme ? Comment ? Qu'il y ait de l'attachement. Nous sommes attachés l'un à l'autre. Ça fait un peu, oui, ça veut dire que nous sommes liés, nous sommes engagés l'un avec l'autre. On partage des valeurs, on partage du quotidien, on partage de l'argent. Mais voilà, il y a des couples qui ne partagent pas d'argent, qui partagent pas leur quotidien. On partage la sexualité. Certains couples le font pas, mais en général, oui. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que le couple, c'est ceux qui vont se considérer comme étant en couple même et qui vont dire, ben voilà. Avec ce que nous sommes et comme nous sommes, nous considérons que nous sommes en couple. Et ce qui va être intéressant de notre point de vue, ça c'est un point de vue de thérapeute du couple, c'est de considérer qu'un couple va vraiment exister une fois qu'il aura traversé sa première crise. Tant qu'un couple n'a pas traversé de crise, oui, ils existent certainement parce qu'ils peuvent se reconnaître comme étant en couple, mais pour autant, Pour autant, c'est la première crise qui va leur permettre de vérifier leur attachement, de vérifier leur appartenance mutuelle, de vérifier leur capacité à avoir des ressources pour dépasser cette crise et à pouvoir rester ensemble. Et c'est intéressant que tant qu'un couple n'a pas traversé une première crise, nous, en tant que thérapeute du couple, on dit ben, « écoutez, ne venez pas nous voir tant que vous n'avez pas de crise, parce que du coup, on voit bien que vous existez, parce que vous êtes attachés l'un à l'autre, vous vous appartenez mutuellement, mais pour autant, on n'a pas mesuré, on ne peut pas mesurer, on ne peut pas évaluer quelles sont vos compétences, quelles sont vos ressources de couple, quelles sont la mesure de votre attachement. Allez vivre d'abord une première crise et puis vous revenez nous voir ensuite. » Donc un couple, c'est certainement deux personnes, homosexuelles ou hétérosexuelles, je dirais, ce n'est pas le sujet, c'est un système de deux personnes qui considèrent être ensemble, constituer un système, au sens où un système, c'est une somme d'interactions entre deux personnes, au moins, et qui se considèrent appartenir l'une à l'autre, et qui sont capables de traverser des moments de crise, de remise en question, et qui ont les ressources pour ça. Voilà. Ouais.
Alors moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est une crise, c'est quoi ? Parce que chacun va avoir aussi sa définition.
Bah oui, bien sûr. Mais une crise, c'est des moments qui sont précieux sans doute, parce que c'est des moments où on peut se regarder soi-même dans son mode de fonctionnement et évaluer, pour un couple en tous les cas, son attachement. Par exemple, une crise, ça peut être un moment où tu me déçois. Je suis profondément déçu par l'autre parce qu'il n'est pas là où je l'attendais. Juste pour faire les courses, juste pour aller chercher les enfants, juste dans la qualité de nos rapports sexuels, juste dans la manière dont je me sens protégé ou en sécurité, dans la manière... Voilà. Il y a plein d'événements du quotidien qui peuvent manifester une forme de déception, de frustration. Il y a une forme de désillusion. Tu n'es pas celui ou celle que j'attendais. Tu n'es pas là, en tous les cas, où je t'attendais. Et du coup, ça fait crise. Et la crise va permettre de discuter qu'est-ce que nous faisons ensemble. Est-ce que nous avons envie de continuer ensemble? Est-ce qu'on a les moyens de dépasser ce moment de déception, de déception mutuelle ou pas mutuelle d'ailleurs parfois, qui fait qu'on a quand même envie de continuer ensemble. La crise, elle est précieuse parce qu'elle va justement permettre de réévaluer le couple, de réévaluer son engagement, de voir si on a envie de continuer. Et c'est dommage souvent parce qu'il y a des jeunes couples qui viennent nous voir qui étaient dans l'illusion romantique d'une vie de couple sans accrocs, sans conflit et sans crise, et qui du coup, parce qu'il y a une crise, on considère que leur couple est fini. Non, c'est pas parce qu'il y a une crise que le couple est fini, c'est parce qu'il y a une crise que le couple va pouvoir exister, se regarder, s'interroger et regarder s'ils sont prêts à continuer ensemble et quelles ressources ils ont pour dépasser ces moments de déception ou de désillusion.
Il peut y avoir plusieurs causes donc du coup à ces crises. Est-ce qu'il y a aussi forcément, des moments particuliers où ça survient ou bien est-ce que c'est pour chaque couple un petit peu différent? On avait un petit peu parlé la dernière fois un petit peu de ces cycles, oui. 3 mois, 7 ans, enfin voilà, ça. On ne savait pas trop, mais bon, peut-être qu'il y a quand même quelques petites choses qui reviennent comme ça dans le temps.
Il y a des choses qui reviennent. On a observé à un moment que chez les jeunes couples, c'était au bout de 7 ans que les crises majeures revenaient. On sait aussi que il y a les crises qui viennent avec le premier enfant. On sait aussi qu'il y a des crises qui peuvent apparaître à la fin de la construction d'une maison parce que le couple s'est énormément investi dans un projet immobilier qui peut être de construction ou d'achat d'ailleurs. Et qu'une fois qu'ils ont acheté et qu'ils commencent à s'installer, ils se regardent mutuellement en se disant ben voilà, on est dans notre maison auquel on a rêvé, qu'on a construite ensemble, qu'on a acheté ensemble. Et maintenant, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Et là peut survenir la crise. Ça peut être la crise pour une infidélité conjugale, pour une relation extra-conjugale, qui sont des crises souvent violentes parce qu'il y a de la trahison, il y a du mensonge souvent. Ça peut être une crise sur le fait qu'il y ait une présence trop importante de la belle-famille, des beaux-parents ou des frères et sœurs ou des amis qui envahissent le couple et qui fait qu'à un moment, un des conjoints se trouve débordé, envahi, et ne supporte plus cette relation dans laquelle il a l'impression de ne pas exister tellement l'autre est envahissant. Ça peut être une crise parce que les enfants prennent trop de place et qu'il n'y a pas eu assez de mots, d'échanges au sein du couple pour regarder comment ils équilibrent leur vie de couple entre la gestion des enfants, l'éducation des enfants, la vie de la famille et la vie du couple.
Est-ce qu'on peut regarder un peu ça de plus près? Par exemple, comment on voit la perte d'engagement, par exemple?
Ah ben, la perte d'engagement, c'est intéressant parce que, effectivement, c'est un couple pour exister va avoir besoin de s'engager à un moment. Il peut l'officialiser ou pas, d'ailleurs, sur un pax, sur un mariage, où parfois il y a beaucoup de couples qui continuent et à exister très bien, sans aucun engagement officiel. Mais pour autant, il y a un moment où le couple se dit « bah oui, on a envie de vivre ensemble ». Donc éventuellement, ils prennent un appartement ou pas, ou une maison, ils vont s'engager, ils vont acheter des meubles ou pas ensemble. Ça, c'est des signes de l'engagement. Ils vont peut-être avoir des enfants ensemble, qui est aussi un signe d'engagement, de quelque chose qui nous lie. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder comment cet engagement est suffisamment explicite, c'est-à-dire comment le couple s'en est suffisamment parlé. Parce que souvent, les couples, en tout cas ceux qu'on voit arriver en crise, nous disent « ah bah oui, mais on sait bien qu'on s'aime puis qu'on s'était engagé ensemble ». Oui, on le sait peut-être, mais l'autre partenaire va dire « oui, mais on ne se l'est jamais dit ». On ne se l'est jamais explicité entre nous de qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble et comment on se sécurise mutuellement. Est-ce qu'on est sur un siège éjectable, sur un sort de strapontin où la relation pourrait se terminer à tout instant? Ou est-ce qu'on est engagé? Ça veut dire que même si on traverse des crises, on va essayer de les traverser ensemble. Voilà, alors qu'est-ce qui va manifester des crises? Ben, c'est comme on le disait tout à l'heure, toutes ces ruptures de confiance, ces ruptures de sécurité, ces moments où je me sens seul, où je me sens abandonné, où je me sens trahi par l'autre, et qui vont manifester ces moments de désillusion qui vont être parfois très violents pour le couple.
Mais les désillusions, ce n'est pas forcément le désengagement. Ça peut durer un petit moment, je croyais que, et puis on se parle, et puis ça va mieux en se parlant. La communication, c'est important. Je crois que vous l'avez nommé aussi l'autre fois, notamment au niveau des enfants, quand on a parlé des familles recomposées, parce que là, il faut parler avec les uns, avec les autres, il faut oublier personne. Donc c'est quelquefois un manque de communication. Au fur et à mesure, on ne se parle plus finalement. Oui, parce qu'il y a le travail, il y a la course pour aller chercher les enfants, les courses pour aller manger, etc. Puis on n'a plus le temps de se voir et plus le temps de se parler.
Complètement. Puis le couple court après le temps ou après les occupations quotidiennes ou après les occupations professionnelles. Et du coup, ne se donne pas ce temps nécessaire à la vie d'un couple, à son hygiène, je pense, qui est de pouvoir se donner des temps de parole, des temps d'échange. Je crois que c'est important pour un couple de se donner des temps en couple, surtout quand on est en famille ou quand on vit avec du monde autour, que ce soit éventuellement une communauté paroissiale, que ce soit des amis ou de la famille d'origine. C'est important que le couple puisse dire maintenant on se prend du temps à nous. Et c'est bien cet espace-là où on va pouvoir parler aussi de la relation. Et ça, les couples n'ont pas appris, on n'a pas appris d'ailleurs, on n'a pas d'école du couple, où on apprend à être en couple, à vivre en couple, à se parler en couple, à parler de son ressenti, à parler de ses expériences, à parler de ses blessures, à parler de ses joies, à pouvoir se dire merci, à pouvoir se faire des reproches éventuellement, mais pas dans des jugements qu'on ne pourra pas dépasser, mais dans des expressions de qu'est-ce qui m'a déplu, qu'est-ce qui m'a blessé, et qu'est-ce que j'ai comme demande et comme besoin à te formuler pour que notre couple aille mieux, pour que je me sente mieux dans le couple. C'est tous les principes de la communication non violente qu'on peut décrire de façon assez sobre. C'est comment apprendre dans une situation difficile. Par exemple, on peut prendre une situation toute simple. On va partir en voiture, mais il y en a un qui est en retard et l'autre attend dans la voiture, que ce soit madame ou monsieur, qu'importe. Et l'un s'énerve et s'énerve tellement qu'il va finir par dire « ouais, t'es toujours en retard, c'est insupportable, je t'attends toujours, j'ai l'impression que je suis ton larbin, que c'est moi qui te conduis ». Et ça, c'est tout de suite, on est déjà dans le jugement. Alors que s'il dit simplement, ça demande vraiment de s'en reparler, il dit « tu vois, quand je t'attends comme ça, j'ai l'impression de me sentir utilisé, d'être à ton service, et ça ne me plaît pas parce que j'ai l'impression que tu exerces sur moi une sorte de pouvoir ». Et je me sens à ton service et je ne trouve pas ça très juste, c'est pas très paritaire, c'est pas très équilibré. Et j'aimerais que ce soit autrement, que tu sois vigilante à ce que, ou vigilant à ce que la prochaine fois, quand on dit qu'on part à telle heure, on peut partir à telle heure. Voilà, un exemple tout simple, mais c'est parler des faits, de dire l'effet des faits, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me fait, ce qui vient de se passer entre nous. Voilà quel est, de quoi j'ai besoin et voilà quelle est ma demande, de façon très précise et très concrète. Les faits, l'effet des faits, quel est mon besoin, de quoi j'ai besoin. J'ai besoin d'être reconnu, j'ai besoin de me sentir respecté, j'ai besoin de me sentir libre. Et voilà comment ça va se traduire de façon très concrète dans une demande. Voilà, ça c'est les quatre étapes de cette communication qui, quand elle est pratiquée dans le couple, peut aider en tous les cas à dépasser des crises, ou en tout cas à les nommer, à les expliciter et à pouvoir les dépasser.
Et vous avez nommé dans votre exemple là, la question du pouvoir.
Oui.
Parce que quelquefois, y en a un qui parle beaucoup, ou il y en a un qui prend beaucoup d'initiatives parce que c'est sa nature,
c'est ça.
C'est son caractère,
oui.
Puis d'autres moins. Et puis, quelquefois, ça devient insupportable pour celui qui peut-être n'ose rien dire. Ou comment ça se... C'est presque un jeu de pouvoir, en fait,
oui,
à un moment donné.
Complètement. Les couples sont beaucoup régis par des jeux de pouvoir qui peuvent être consensuels, au sens y en a un qui a plus le pouvoir, qui sait organiser les vacances, qui sait organiser la vie culturelle de la famille, qui décide des repas, qui décide de où on va se promener dimanche. Et puis l'autre, ça peut lui convenir. Et pourquoi pas, si ça leur convient et si le couple s'équilibre comme ça. Et puis d'autres fois, les jeux de pouvoir sont trop déséquilibrés, deviennent insupportables et favorisent des crises. Donc les pouvoirs, ça peut être autour justement de tout ce qui touche aux décisions de la vie quotidienne, le film qu'on va regarder à la télé ce soir, mais aussi l'heure à laquelle on se couche, ou si au dimanche on va voir les beaux-parents, ou si on va se promener en forêt. Les jeux de pouvoir, c'est aussi autour de l'argent, de qui gagne combien, et qui dépense quoi pour qui, et comment ça s'organise. Les jeux de pouvoir, ça peut être aussi autour de l'organisation de la maison, c'est-à-dire de la décoration, du bruit qu'on fait, de la télé, bien sûr, de la musique qu'on va mettre. Il y a plein d'endroits où le pouvoir peut s'exercer. C'est le pouvoir aussi de la présence des belles familles. Si la famille de madame ou de monsieur est très présente, voire envahissante, parce que les parents viennent, parce que les frères et sœurs viennent, parce que les cousins sont là. Parfois, ça convient très bien. Il y a des couples qui sont très complémentaires, parce que, par exemple, l'un des partenaires va venir avec une toute petite famille et va aller rencontrer une autre personne qui, elle, a une énorme famille. Et les deux sont très contents de se trouver dans cette situation où l'un accueille celui qui n'a pas de famille dans sa famille importante et l'autre qui n'a pas de famille ou très peu, une petite famille, est très content d'intégrer une grande famille. Tant que c'est supportable, mais ça peut aussi favoriser un jeu de pouvoir parce qu'il va y avoir des téléphones, il va y avoir des présences, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir peut-être une maison familiale dans laquelle on va aller régulièrement. Ils vont favoriser des jeux de pouvoir au bénéfice ou au détriment du couple. Et ça peut changer au fil de la vie du couple. Ça peut être très agréable à un moment d'être accueilli dans une grande famille et d'accueillir quelqu'un qui n'en a pas. Puis à un moment, ça peut être un jeu de conflit parce que celui qui a une petite famille va dire « Écoute, j'en ai marre de ta famille maintenant. J'en ai marre de passer toujours des vacances avec tes cousins, tes oncles, tes tantes, tes parents. J'ai envie qu'on aille ailleurs et qu'on se débrouille tous les deux aussi. On est grand pour s'occuper de notre couple tout seul et pas toujours à l'ombre de ta famille. » Ça fait partie aussi, ça alimente un jeu de pouvoir.
Il peut y avoir aussi des jeux de pouvoir un peu plus compliqués. Je pense aux jeux de pouvoir sexuels, enfin dans la sexualité.
Totalement.
Ou dans une forme de jalousie qui est presque un jeu pour garder l'autre ou quelque chose comme ça. C'est des choses des fois plus subtiles, une espèce de manipulation peut-être.
Bien sûr, il peut y avoir des jeux... dans la sexualité, c'est très intéressant parce que dans la sexualité, il peut se jouer tous les jeux, pervers et jouissifs des jeux de pouvoir. C'est-à-dire que l'un va user, peut-être abuser de l'autre à son détriment ou peut-être à son bénéfice parce que ça lui plaît, ce qui peut arriver aussi. Mais là aussi, bien sûr, ces jeux de pouvoir existent dans le consentement ou dans le non-consentement. C'est un thème qui est très à la mode aujourd'hui. Dans comment je me sens désiré et comment je n'ai pas envie de me sentir tout le temps désiré parce que ça m'envahit. Et ça peut venir de la part des femmes comme aussi des hommes. Et c'est aussi intéressant de voir qu'il y a des hommes qui se entre guillemets, se plaignent d'une trop d'attente, d'un trop de demande de la part de leurs femmes qu'ils n'arrivent pas à laquelle ils n'arrivent pas à répondre, ou ils ne savent pas comment y répondre. Puis les jeux de pouvoir peuvent s'exercer aussi, bien sûr, dans la violence, hein, violence verbale, violence physique, où là aussi, elle peut être particulièrement toxique, nocive, et en même temps, parfois, constitutive du couple. C'est assez touchant de découvrir que certains couples se sont construits dans dans ces jeux de menaces parfois violentes, verbales, parfois physiques, comme si c'était un équilibre du couple qui sans doute reproduit des histoires familiales de part et d'autre dans les familles respectives de chacun des partenaires. Mais ces jeux de pouvoir peuvent devenir toxiques avec le temps parce qu'à un moment, la violence physique s'exerce, elle s'exerce de façon abusive, de façon contraignante, de façon blessante, traumatisante même. Et là, il y a du trop. Et il va falloir aider les couples à pouvoir sortir de cette situation. Et parfois, il n'y a que la séparation qui peut être la porte de sortie.
Alors, j'ai parlé aussi de la jalousie parce que quelquefois, de la part de l'homme ou de la femme d'ailleurs, l'un ou l'autre, essaye de voir jusqu'à quel point tu m'aimes, justement.
Oui, oui.
Encore et encore, voilà, oui, il y a des demandes énormes et jusqu'à des choses fait. D'ailleurs qui peuvent être dramatiques finalement.
Complètement. Ouais.
Jusqu'après, arriver à une séparation parce que il y en a un qui en peut plus, quoi.
La jalousie est vraiment un sentiment, douloureux parce que c'est un sentiment espiègle qui vient sans cesse envahir la personne jalouse. La menacer d'exclusion, d'abandon, de trahison. Et du coup, elle est toujours aux prises avec une suspicion et une inquiétude sur son partenaire. Donc ça, c'est très toxique pour le couple parce qu'il y a plus de la confiance est extrêmement difficile à rétablir. Certains couples se construisent avec cette jalousie parce qu'elle implique de l'exclusivité. Elle implique un choix singulier et extrêmement puissant à l'égard du partenaire pour la personne qui est jalouse. Elle est jalouse de son partenaire, donc le partenaire, ça peut être très séduisant de se sentir dans un tel sentiment de possession, mais qui devient à un moment rapidement d'ailleurs envahissant, enfermant et douloureux à vivre. Moi, la jalousie, c'est intéressant parce que ça nous renvoie aussi au contrat que va faire le couple, contrat explicite ou implicite, contrat écrit ou contrat oral, qui est-ce que nous sommes dans une relation sexuelle en particulier, amoureuse, exclusive ou pas ? Comment est-ce que nous tolérons que d'autres hommes, d'autres femmes puissent être en contact avec nous ? Est-ce que j'ai le droit de rencontrer en tant qu'homme des femmes à l'extérieur ? Ne serait-ce que des collègues de travail ? Est-ce que c'est insupportable pour toi ? Est-ce que nous tolérons une relation sexuelle ponctuelle ? Est-ce qu'on s'en parle ou est-ce qu'on ne s'en parle pas ? Est-ce que cette relation sexuelle ponctuelle est partagée ? Voilà, toutes ces questions-là qui parlent en fait de la manière dont le couple s'engage, dont ils se parlent, sur leur amour, sur la manière dont ils sont ou pas exclusifs l'un à l'égard de l'autre.
Alors, on va continuer à en parler, peut-être justement par rapport à la question de l'infidélité conjugale qui peut être une des grandes crises du couple. Et avant cela, je vous propose d'écouter Francis Cabrel qui nous dit « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai ». Alors, comment ça peut-être il nous le dit aussi. On va écouter la chanson, puis on se retrouve juste après avec Jean-Paul Sauzet pour continuer notre émission sur le couple.
Mon enfant nu sur les galets, le vent dans tes cheveux défait, comme un printemps sur mon trajet, un diamant tombé d'un coffret, seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets, Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait. Nu sur les galets, le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai. Lui qui ne s'approche jamais, je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets, tellement de choses qu'on promet. Une seule pour laquelle je suis fait. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes, l'amour comme s'il en pleuvait. Nu sur les galets, les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie et celle d'après, tu seras mon unique projet. Je manierai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, tous les murs que je trouverai. Et juste en dessous j'écrirai que seule la lumière pourrait. Et mes doigts pris sur tes poignets, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai.
Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2 et vous pouvez nous écouter en DAB+, maintenant, et puis aussi, bien sûr, écouter nos podcasts sur radioallianceplus.fr. Nous reprenons notre émission avec Jean-Paul Sauzède pour tout ce qui concerne le couple. Et il y a de quoi dire. Et nous en étions à nous dire que la crise est nécessaire. Alors, il y a crise et plus ou moins profonde. Et des fois, c'est des crises quand même de couple importantes, comme celle de l'infidélité conjugale. Jusqu'où ça va? Peut-être que c'est pas ça franchement le problème. Peut-être que c'est aussi un symptôme d'autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Paul Sauzède?
C'est intéressant qu'on parle de l'infidélité conjugale au moment où on interrompt notre émission par une chanson. C'est bien ça la difficulté d'une crise conjugale due à une relation extra-conjugale, c'est qu'il y a interruption de la relation, il y a quelque chose qui se coupe. Et c'est souvent très violent parce qu'un des partenaires sent le vent venir, je dirais, mais le jour où il s'en aperçoit, où il découvre cette relation, ce tiers sexuel qui s'est introduit dans le couple, c'est extrêmement violent. violent parce que ça ne faisait pas partie du contrat, en tout cas pour les couples pour qui ils s'étaient entendus pour dire qu'ils ne seraient pas infidèles l'un à l'égard de l'autre, en tout cas qu'ils seraient fidèles l'un à l'égard de l'autre dans une forme d'exclusivité. Et une fois de plus, je trouve que c'est important que les couples se parlent de quel est notre contrat autour de notre fidélité sexuelle. Est-ce que nous sommes dans l'exclusivité? Est-ce que nous tolérons qu'il y ait des tiers sexuels, qu'on puisse avoir une aventure ou pas? Est-ce qu'on s'en parle ou pas si ça arrive, etc. Et là-dessus, je n'ai pas de modèle. Chacun fait comme il peut et au mieux de ce qu'il est et de ce qu'il peut vivre, de ce qu'il veut vivre ensemble avec son partenaire. Mais non, moi, je préfère plutôt que vous aurez remarqué, on ne parle pas d'adultère, que je trouve un peu culpabilisant et accusateur. On parle plutôt d'une relation extra-conjugale. C'est-à-dire comment, dans notre relation de couple, il s'est glissé, de façon souvent impromptue, un tiers, ce qu'on appellera un tiers sexuel. Mais il peut y avoir des relations extra-conjugales avec le travail. Il y a des personnes qui sont tellement passionnées de leur travail, tellement captées par leur travail, que c'est comme un tiers sexuel, c'est un autre tiers qui vient s'introduire dans le couple et qui fait que le couple n'est plus à deux, mais devient à trois, voire à quatre, parce qu'il peut y avoir les enfants, parce qu'il peut y avoir la belle-mère ou le beau-père. Il peut y avoir un loisir, il peut y avoir la paroisse et l'église aussi, qui s'introduisent comme des tiers au sein du couple. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder comment ce tiers va aider ou pas le couple à vivre. Il y a des tiers qui peuvent être très porteurs pour le couple parce qu'ils créent une dynamique. Et beaucoup de couples dans lesquels il y a eu des trahisons sexuelles retrouvent à l'occasion de ce tiers sexuel, de cette relation extra-conjugale, une forme de dynamisme, d'élan dans leur propre vie sexuelle. De la même manière qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des engagements associatifs, professionnels, qui vient créer un dynamisme au sein du couple qui parfois était un peu vide, un peu creux, on ne se disait plus grand-chose entre nous deux. Heureusement qu'il y a le travail, qu'il y a de l'association, qu'il y a Radio Alliance Plus ou je ne sais pas quoi, qui fait qu'on a de quoi se parler, du coup, ça vient nourrir notre couple. Après, la question qui est intéressante de se poser, c'est de dire, tiens, quand il y a une relation extra-conjugale, ce qui quand même arrive chez beaucoup de couples, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais les dernières statistiques montraient qu'il y avait 60-70%, je crois, des hommes et des femmes, les hommes un peu plus nombreux que les femmes, qui avaient connu une relation extra-conjugale durant leur vie de couple. À quoi ça sert? Au sens de qu'est-ce que ça vient dire du couple? Est-ce que c'est ça le problème du couple, qu'il y ait un tiers, un autre amoureux, une autre amoureuse? Ou est-ce que ce tiers vient justement pour mettre à jour une difficulté qui est le problème du couple. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure l'idée que certains couples se nourrissent du métier de madame ou du métier de monsieur ou de la vie sociale de madame ou de la vie sociale de monsieur, sans quoi le couple est vide. Et parfois, par faute de nourrir le couple, d'avoir des interactions suffisantes, d'avoir des sujets de conversation, d'avoir envie de vivre ensemble, d'avoir des projets, on suit les projets d'un tiers. De notre vie professionnelle, de la vie familiale, de la vie professionnelle, de la vie sociale, ou bien d'un groupe sportif. Ça peut aussi, il y a des familles ou des couples où le sport de l'un ou l'autre prend énormément de place et vient occuper, ça peut être l'alcool aussi, qui vient occuper la vie du couple et qui vient donc remplir et permettre au couple de rester ensemble. Parfois, le tiers sexuel est une manière aussi, enfin, d'avoir une relation extra-conjugale, c'est aussi une manière d'échapper au pouvoir de l'autre. Ou un moment où je me sens sous emprise, où je me sens étouffé, où je me sens trop dominé, trop contraint ou trop contrainte, une manière de pouvoir continuer à exister, c'est de m'échapper dans une autre relation amoureuse dans laquelle je me sens pleinement libre et pleinement aimé surtout, et pleinement reconnu. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles je peux avoir une relation extra-conjugale. Ça ne veut pas dire que la relation extra-conjugale n'a pas de sens, qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle n'a pas de teneur amoureuse. Ça veut juste dire que c'est important, si le couple veut traverser cette crise-là, d'aller regarder qu'est-ce que ça vient dire, qu'est-ce que ça vient faire là, cette histoire-là, cette relation-là, dans l'histoire de notre vie de couple.
Ça permet de faire le point sur là où on en est. En quelque sorte.
Quand on arrive à prendre un peu de recul, parce que sur le moment, on ne fait pas le point sur là où on en est, on fait le point sur le fait qu'il y en a un qui trahit, il y en a une qui trahit, il y en a un qui est blessé, trahi, et l'autre qui est, qui est parti ailleurs, qui a dépensé son temps et parfois son argent dans une autre relation amoureuse. Donc ça, c'est violent. Il faut d'abord passer cette phase-là, qui est la phase de la souffrance, qui est une phase assez violente, pour pouvoir aller regarder ensuite. Oui, qu'est-ce que ça vient dire de nous? Pourquoi ça nous arrive maintenant? Qu'est-ce qui fait que tu es allé chercher ailleurs? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu te sentir aimé par une autre ou par un autre? Qu'est-ce qui fait que notre couple a été insuffisant?
C'est forcément que le couple est insuffisant, la réponse.
Ben,
On a rencontré quelqu'un qui est totalement autre, je dirais, et qu'au bout d'un certain temps, en tout cas, oui, au bout d'un certain temps, on a l'impression d'avoir peut-être fait le tour de son couple, entre guillemets.
Ben oui,
c'est mal dit, mais...
Non, c'est bien dit.
Il y en a quelques-uns,
que
ça peut être ça
l'autre
aussi.
L'autre ne me nourrit pas suffisamment, je ne me sens pas épanoui, je m'ennuie dans mon couple, et effectivement, rencontrer un autre me permet de retrouver une forme d'excitation. Et parfois, c'est important d'accepter ce constat que le couple est allé au bout de son chemin, n'a pas pu aller plus loin, et que peut-être il faut accepter de se séparer. Mais c'est aussi peut-être de regarder comment dans mon couple, je pourrais réalimenter mon couple, le renourrir, lui redonner de la densité, lui redonner de l'épaisseur, du vivant, plutôt que d'aller chercher ce vivant ailleurs. Voilà, je ne dis pas que toutes les options sont possibles, ça dépend de là où en est le couple, de son histoire, de sa capacité justement à traverser la crise ou pas.
Alors il y a des crises d'infidélité quand c'est répétitif comme ça, par exemple, quand c'est répétitif, qu'est-ce que ça dit en fait du couple qui quand il y en a toujours un qui va ailleurs et c'est toujours le même.
Ça dit plein de choses, mais qui dépendent beaucoup des couples. Ça peut dire que dans le système du couple lui-même, il y a une forme d'excitation à ce que l'un des deux partenaires mette le couple en danger. Il peut y avoir une forme d'excitation à ça, pour le système du couple. Ça peut être le fait que l'un des partenaires a toujours besoin... n'arrive pas plutôt à rester dans une unicité, dans une exclusivité du couple. Il a toujours besoin d'aller regarder ailleurs pour se rassurer, pour sans doute trouver de l'excitation ou se sentir aimé, qu'importe les raisons. Mais il y a ce besoin-là répétitif. Mais qu'est-ce qui fait que le partenaire trahi continue à rester et continue à subir cette violence-là? Donc, est-ce que, entre guillemets, ça lui convient? Est-ce que ça arrange le système couple, qui est cette forme d'infidélité répétée? C'est à voir, à regarder avec le couple, à regarder avec l'histoire du couple, l'histoire des deux partenaires, parce que souvent il y a des histoires familiales qui viennent se mêler à l'histoire du couple lui-même. Voilà, il n'y a pas de réponse unique.
Oui, il y a quelquefois que la personne peut-être n'arrive à rien en dire.
Parfois,
tellement elle est anéantie
ou tellement elle est captive de ce système répétitif dans lequel les deux sont prisonniers, sont captifs.
Oui. Alors, Jean-Paul Sauzède, il y aura encore beaucoup de choses à dire, je pense, sur le couple. Mais notre temps arrive, touche à sa fin bientôt. Notre temps d'émission aujourd'hui, hein.
Oui.
Pas notre temps dans notre vie, nous en avons encore beaucoup. Et donc, je vous propose d'arrêter là peut-être nos investigations sur le couple. Et puis, nous pourrons les reprendre le mois prochain. Peut-être sur certaines choses que nous nous sommes dit en les approfondissant et puis en regardant par exemple les étapes du couple, certaines blessures du couple qui restent, donner des exemples de différents types d'engagement, de ce qui peut se passer aussi dans des couples différents, des couples à trois par exemple, hein, on en a parlé une fois.
Les troubles, c'est ça.
Voilà, les polyamours.
Oui, les polyamours, tout à fait.
Et puis un peu l'évolution du couple. Voilà, alors vous avez un programme déjà pour la fois prochaine, chers auditeurs et chères auditrices, et nous serons encore ensemble avec Jean-Paul Sauzède.
Avec plaisir.
Bien sûr, le mois prochain.
Merci.
Et ben voilà, en attendant, on vous souhaite tout de bon. En couple ou non.
Exactement. Heureux en tous les cas.
Heureux,
ça l'enjeu.
Voilà. Hein, profitez de la vie. Au revoir.